Nous allons méditer sur un sujet tout à fait spécial, qui n'est pas ordinaire, à savoir sur un épisode de la vie de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, sa vocation. Comment il a ressenti l'appel de Dieu pour devenir prêtre, d'abord, et ensuite pour devenir missionnaire. Les deux. Et puis, cet exposé nous montrera les voies providentielles et comment le bon Dieu se sert des parents chrétiens pour faire de grandes grâces. Voilà. Sans doute, évidemment, nous devons Monseigneur Lefebvre à Monsieur et Madame Lefebvre. Nous devons toujours pareil, les saintes vocations, les vraies familles chrétiennes, à qui est-ce que nous les devons après le bon Dieu? Eh bien, aux parents chrétiens. Alors voyons un petit peu cela dans la vie de Monseigneur Lefebvre. Il était donc enfant au collège du Sacré-Cœur à Tourcoing, dans le nord de la France, et puis c'est la guerre, la première guerre mondiale. Tous les hommes sont mobilisés. Monsieur Lefebvre, lui, n'était pas mobilisé, puisqu'il était père de famille nombreuse. Mais il offrit ses services à la Société des Secours des Blessés Militaires. Et quand la ville de Tourcoing fut occupée par les Allemands pendant les 4 années de guerre, eh bien, il se rendait en voiture à travers les postes allemands à la recherche des blessés français. Voilà. C'est vous dire le courage de cet homme. Quant à Madame Lefebvre, eh bien, ensuite, plus tard, se sachant surveillé, Monsieur Lefebvre quitte le pays. Il va en Belgique, en Hollande, en Angleterre, voilà, pour aider les évadés, les prisonniers qui s'évadent, etc. Ou bien au service de l'intelligence service, les services secrets anglais. Vous voyez, un patriote. Un patriote. Alors, Madame Lefebvre, la maman, se trouve seule à la maison et à l'usine. Voilà. Et donc, cette vaillante chrétienne, eh bien, fait comme saint Ignace dit, hein, dans l'adversité, eh bien, il faut faire agire contra, hein, agir contre, ne pas se laisser aller au découragement, au sentiment de l'adversité, non. Agir contre, on va réagir. Et donc, elle contre-attaque sa guerre à elle. Elle redouble de dévouement au dispensaire, le petit hôpital de la ville, où elle contracte la gale, une mauvaise maladie. La religieuse qui la soigne en maniant la brosse de chien-dent pour faire enlever les croûtes de la gale, déclare avec admiration aux enfants Lefebvre, votre maman est une sainte, parce qu'elle supportait ces choses-là. À l'ambulance du collège, le collège est transformé en ambulance pour les blessés français et puis allemands. Eh bien, elle ne répugne pas à soigner les blessés allemands. Voilà. Parce que notre Seigneur a dit, hein, il faut aimer même les ennemis. C'est dans l'Évangile. Mais, lorsque des diaconesses allemandes, donc vous savez, ces fameuses religieuses ou infirmières protestantes allemandes, viennent loger chez elles, alors elles donnent les salles du premier étage nues. Sans meubles, parce qu'il ne veut pas collaborer avec l'ennemi. Alors là, la coupe déborde. Elle est enfermée dans la cave de la maison de ville de Tourcoing pendant plusieurs jours. Et c'est là qu'elle contracte une maladie grave qui va lui ronger les os après la guerre. Voilà, 3 jours en prison dans les caves de la maison de ville. Vous voyez, ce sont des épreuves pour la famille, pour les enfants. Ah, oui, maman. Ah, les grandes filles doivent se débrouiller sans maman. Enfin, voyons un peu Marcel Lefebvre. Alors, je l'appelle Marcel Lefebvre parce qu'il n'est pas encore monseigneur. Il n'est même pas encore abbé. Il était au collège de Tourcoing. Et il nous a dit, la guerre, c'est quelque chose de terrible. Et ça nous a marqué. Je ne sais pas où je trouve ça. Ça a marqué notre enfance, dit Mgr Lefebvre plus tard. Même si on n'a que 9, 10, 11 ans, c'était l'âge qu'il avait, eh bien on ne peut s'empêcher de penser que la guerre est quelque chose de vraiment épouvantable. Il est clair que ça nous a marqué, nous, les 5 aînés, les 5 plus grands de la famille Lefebvre, qui, vous savez, sont tous devenus religieux ou prêtres. Il est clair que ça nous a marqué, nous 5. Nous avons été marqués par cet événement, et je crois que la vocation est due en partie à cela. Parce que nous avons vu que la vie humaine, c'est vraiment peu de choses, et qu'il fallait savoir souffrir. Voilà. Comme quoi, vous voyez, les épreuves, loin de faire du mal aux gens, elles les élèvent. Voilà. Les épreuves portent du fruit. Le jeune Marcel Lefebvre a appris quelque chose. Il fallait savoir souffrir. C'était ça la vie. Savoir se donner à l'exemple de sa maman, se donner, parce qu'il y avait l'exemple de la mère à la maison. Alors, nous sommes en 1917-1918, la dernière année de la guerre. Les élèves sont dispersés dans divers maisons de la ville parce que le collège est occupé par l'armée allemande. Bon. Et cette année 1917-18 est pour Marcel Lefebvre une année décisive pour sa vocation. Chaque jour, avant la levée du couvre-feu, donc avant 6 heures du matin, on n'a pas le droit de sortir dans les rues, lui, il sort dans la rue. Que va-t-il faire? À 9, 10 ans, 11 ans, que va-t-il faire? Il va servir la messe à son confesseur, l'abbé Desmarchelier. Voilà. Un matin, il échappe de justesse à une patrouille allemande qui ne semblait que l'attendre et qui l'aurait facilement malmené. Dans ces conditions, pouvait-il continuer à aller servir la messe? L'abbé conseilla simplement, eh bien, qu'il passe par un autre chemin. Et voilà. Et Marcel Lefebvre, confiant dans son ange gardien, continua à servir la messe tous les jours, avant la levée du couvre-feu. Quand on demandait à Mère Marie-Christiane, sa sœur, sa petite sœur, plus tard fondatrice du Carmel, quand on demandait à Mère Marie-Christiane, quand est-ce qu'elle croyait que son frère Marcel avait eu la vocation? Elle répondait, je crois qu'il l'a eu toujours. Bon, c'est pas vrai, évidemment. Il y a un moment. Mais comment le terminer, c'est difficile. Moi, je crois, ce sont les épreuves de la guerre et l'exemple de sa mère. Et de son père, évidemment. Son père, qui ne supporte pas de devoir collaborer avec les Allemands, de devoir, avec les ennemis donc, de devoir livrer sa marchandise aux Allemands. Donc il ferme ses stocks de laine, puisqu'il était filateur de laine, et qui va à l'étranger pour aider son pays. Quel bel exemple de droiture d'un père de famille. Et puis sa mère, qui ne plie pas non plus, n'accepte pas de recevoir ses diaconesses allemandes. Elle veut bien soigner les blessés, oui, mais pas plus. Vous voyez ? C'est beau, cette fidélité au principe patriotique. Et alors, toutes les souffrances que ça entraîne, évidemment, dans une famille, des conséquences. Eh bien, Marcel Lefebvre voit cela. Il est fier de ses parents. Il comprend qu'on peut faire quelque chose de grand si on est fidèle à ses principes. Et je pense que c'est à cet âge-là, vers 9, 10 ans, qu'il commence à dire « Pourquoi ne serais-je pas prêtre ?» Surtout aussi à l'exemple de ce bon abbé des Marcheliers, qui est un prêtre exemplaire. L'excellent Louis des Marcheliers était donc professeur au collège de Tourcoing. Et Marcel Lefebvre, donc, qui avait 13-14 ans, l'eut comme professeur principal en cette année 17-18. Et toute la classe le vénérait, cet abbé des Marcheliers. Si bien que tous avaient de bons résultats dans les cours, et Marcel Lefebvre le premier. Il eut le premier prix de diligence et le premier prix d'exercice grec. Le grec, c'est dur, vous savez. Non. Un deuxième prix de récitation classique et une dizaine d'accessites. Évidemment, peut-être vous ne comprenez pas ce que c'est que tout ça. Hein, parce qu'en France, on récompense les enfants à la fin de l'année par des prix. On classe, premier prix, deuxième prix. Et ensuite, il y a les accessites qui n'ont pas des prix, mais qui sont quand même mieux que les autres. On voit que Marcel Lefebvre était un des premiers de sa classe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'enthousiasme à ce moment-là. Parce qu'il y avait un bon prêtre. Et si bien qu'il y eut une pétition de tous les élèves pour garder l'abbé des Marcheliers dans l'année suivante. Et le directeur du collège accepta. Donc il eut 2 ans de suite le même prêtre. Et je pense que c'est cela. Un confesseur, un directeur spirituel, pense que c'est là qu'il a compris que le bon Dieu l'appelait à devenir prêtre. Voilà. Puis voyez un peu ce qu'il fait, n'est-ce pas ? Non seulement il travaille, mais aussi il entre dans la congrégation de la Sainte Vierge du collège pour acquérir une plus grande dévotion mariale. Ensuite, il devient même assistant, puis conseiller, et enfin préfet de la congrégation de la Sainte Vierge, de son collège. Ah. C'est quelqu'un qui avait l'idéal déjà. Voyez, on savait à qui lui confier cette responsabilité de la congrégation mariale du collège. Ensuite, il est également membre de la croisade eucharistique. On a une photo de lui avec l'insigne de la croisade. Et bientôt, il deviendra membre de la Société de Saint-Vincent de Paul, comme nous allons voir. Donc il entre en classe de première, bon c'est le système français, l'avant-dernière classe du cycle secondaire. Et donc il est membre de la Société de Saint-Vincent de Paul, au service des pauvres de la ville. Des malades, des indigents qu'il visite hein, avec son vélo. Il va visiter ses pauvres au moment libre. Donc il adhère à cette, ça s'appelle la conférence de Saint-Vincent de Paul du collège. C'est fondé pour, dans le but d'apporter aux pauvres un secours matériel et en même temps pour établir et entretenir entre les membres, les jeunes gens, des rapports de charité et de fraternité. Voilà. Et donc Marcel Lefebvre est content quand il peut se dévouer auprès des pauvres. Il a une bicyclette qu'il a achetée à sa mère en vendant les œufs du poulailler, parce qu'il s'occupait du poulailler maternel, avec l'argent que lui donne sa maman, comme récompense de ses soins au poulailler maternel, il s'achète un vélo. Et avec ce vélo, bien, il va visiter ses pauvres dans la ville. Il ne va pas se promener à flâner. Son vélo, c'est un instrument d'apostolat pour un jeune homme de 15 ans. Bon. Et en 1919-1920, il monte en grade dans la conférence de Saint-Vincent de Paul, puisqu'il devient vice-président en 1922, hein, au collège toujours, vice-président de la congrégation de Saint-Vincent de Paul. Et donc il distribue les pauvres de la ville à ses associés. Ils sont une dizaine de collégiens, voyez, à s'occuper des pauvres. Alors il donne tel quartier, telle rue à visiter à chacun. Voyez. Et lui-même a visité, par exemple, un jour, en s'informant évidemment auprès des paroisses, auprès des curés. Est-ce que vous avez dans votre paroisse tel malade, tel pauvre, est-ce que je peux le visiter? Et ainsi il découvrit un malheureux qui était paralysé des jambes, qui était déprimé, en dépression, sans travail. Et bien Marcel Lefebvre le visita, remit son appartement complètement à neuf et lui trouva du travail à réparer des montres. Voyez. Ainsi, c'était une charité efficace. Déjà, Mgr Lefebvre la montre, cette charité efficace et discrète en même temps. On peut se demander si la maman, Madame Lefebvre, avait la prémonition de l'avenir de son fils. Vous savez que le jour de son baptême, quand on a ramené le petit Marcel des fonts baptismaux à la maison où Maman Lefebvre était restée, eh bien, elle accepta d'embrasser pour la première fois son enfant, après le baptême, pas avant, après le baptême seulement. Il était habité par le Saint-Esprit, et pas avant. Et elle dit ces paroles, celui-là, hein, aura un grand rôle à jouer auprès du Saint-Père. Voilà, simplement cela. Elle avait eu en un éclair, si vous voulez, une prémonition, hein, un grand rôle à jouer près du Saint-Père. Ah. Alors je pense qu'elle gardait cela tout le temps dans sa tête, elle l'a répété à personne. Elle n'a jamais dit à personne. On a appris cela plus tard par la femme de ménage qui avait apporté l'enfant à la maman après le baptême. C'est la servante Louise qui a raconté cela après. Mais je pense que la maman était bien persuadée que Marcel Lefebvre deviendrait prêtre. Mais elle n'a jamais rien fait pour l'y pousser. Elle était très discrète. Elle priait qu'il puisse accomplir cette vocation, si c'était vraiment sa vocation, mais il était bien loin de pousser à la chose. Elle voulait que Marcel décida, lui seul, avec le bon Dieu, bien sûr. Alors un jour, vous savez, les petites filles sont curieuses, et donc Christiane, qui était 2 ans plus jeune que Marcel avait 9-10 ans à ce moment-là, Christiane lui pose la question, t'es curieuse, « Penses-tu que tu deviendras prêtre ?» Parce qu'elle se disait, « Oh, comme il est toujours pieux, mon frère. Oh, comme il est toujours parfait en toutes choses. Peut-être bien qu'il deviendra prêtre un jour. » Alors, je lui pose la question, « Penses-tu que tu deviendras prêtre ?» Alors, Marcel Lefebvre ne veut pas répondre à sa sœur. Il ne veut pas se trahir. Et il dit, « Oh, bien plus que cela. » Alors, elle insiste, « Mais tu ne peux pas quand même désirer être évêque. » « Mais si, » dit Marcel, puisque saint Paul dit qu'on peut le désirer. Alors, tu désires être évêque? Oh, plus que cela. En tout cas, tu ne peux pas être pape, puisque maintenant ce ne sont que des Italiens qui sont papes. Alors, presque pape, répond Marcel. Bon, c'était dit évidemment sur le ton de la plaisanterie. Vous avez lu cela. Mais ça disait l'avenir. C'est assez incroyable. Bon, ça je le dis en passant, vous voyez. Donc Maman Lefebvre, ben, elle se doutait bien que son fils, Marcel, pourrait bien un jour avoir la vocation. Mais bon, elle laisse faire la Providence, elle ne va pas influencer son choix. Et c'est un jour de l'été 1919, lorsque le grand frère René, qui était pensionnaire à Versailles, en France, avait dit à son papa, « Moi, je vais être missionnaire. » Alors, il avait reçu la soutane. En ce temps-là, on recevait la soutane déjà avant la maturité, avant le bac, voyez, les petits séminaristes. Alors, il revient en vacances, à l'été 1919, avec la soutane. Il était encore écolier. Et alors, c'est à ce moment-là que Marcel dit, « Moi aussi, je voudrais bien être prêtre. » Voilà. Et après, 3 semaines plus tard, donc, René, le frère aîné, entrait au séminaire français de Rome. Et quelques jours plus tard, il écrivait à son frère Marcel, depuis Rome, enthousiaste, je vous cite, « Je ne te souhaite qu'une chose, c'est de me rejoindre ici dans 3 ans. » Parce qu'il y avait 3 ans de différence entre eux, au moins au point de vue scolaire. « Tu y goûteras des joies qu'on ne peut goûter ailleurs, ni dans le monde, ni dans aucun autre séminaire de France, je crois. Rome et le séminaire français sont 2 grâces à demander au bon Dieu. » Vous voyez, le frère aîné, enthousiaste déjà, hein, qui attirait son frère à le suivre 3 ans plus tard. Aussi, Marcel sentait-il croître en lui le désir du sacerdoce. Voilà. Mais arrivé en classe de terminale, la dernière classe avant la maturité, et à l'approche des vacances de Pâques, il entendit l'abbé de Coninck, le chef de la classe, celui qui était le responsable de la classe de terminale, avertir ses élèves, « Attention, mes chers messieurs, c'est durant ces vacances de Pâques que vous devez prendre votre décision concernant votre avenir. » Un point, c'est tout. À des jeunes gens qui avaient 17, 18 ans, il fallait, en 2 semaines, se décider. Quoi donc? Pour toujours. Ce qu'on ferait plus tard. Ben, voilà. Un jeune homme était capable, à ce moment-là, à 17, 18 ans, d'engager son avenir. Il était assez mûr, déjà, pour avoir réfléchi à ce qu'il ferait plus tard, pour choisir sa voie. Et d'abord, le premier choix, vous le savez bien, est-ce que je reste dans le monde, en suivant la voie normale, qui peut être le mariage chrétien, ou bien est-ce que je me consacre à Dieu, dans la vie religieuse, ou dans la vie sacerdotale, hein? Premier choix à faire. Il fallait le faire. Il avait 17 ans. Ce n'est pas extraordinaire à l'époque. Maintenant, ça nous semble extraordinaire, hélas, parce que nos jeunes n'ont plus la maturité de leur père ou de leurs grands-parents. Alors c'est un peu les familles qui doivent justement essayer de faire mûrir leurs enfants. Alors voilà, et tu dois choisir pendant les vacances de Pâques, puis c'est tout. Alors il dit ça à sa famille. Le professeur en classe, on a dit qu'il fallait nous choisir. Moi, je ne sais pas comment faire, moi, pour, alors, comment faire ça, hein? Il confie à sa sœur Christiane, justement, ses hésitations. C'était un peu sa confidente, sa sœur, sa petite sœur. Hein? Donc, comment faire? Est-ce que j'oserais devenir prêtre? C'est de la folie de penser qu'on peut devenir prêtre. Non, je ferais plutôt comme Saint François, qui par humilité ne voulut pas devenir prêtre. Je veux être un saint, je serai donc un frère. Voilà. Bon, Christiane lui dit, ben écoute, tu ne veux pas rester dans cette hésitation, et sa maman lui aussi lui dit ça, tu ne veux pas rester dans cette hésitation, il faut choisir, pourquoi n'irais-tu pas faire quelques jours de retraite? Ah, voilà, bonne idée. Il allait souvent visiter les monastères bénédictins voisins, et à quelques heures se trouvait quelques heures de vélo, se trouvaient plusieurs trappes, hein, des couvents cisterciens, bénédictins plus austères, hein, Et ainsi, près de Saint-Omer, il y avait l'abbaye de Wisk, qui existe toujours, qui avait été fréquentée jadis par son père, quand il était pensionnaire à Boulogne, son papa. Et donc, la maman conseille à Marcel, va donc à Wisk, fais une retraite, et puis consulte le père hôtelier qui reçoit si gentiment les hôtes, et demande-lui de t'éclairer pour voir si tu n'as pas la vocation. Et Marcel, donc, opta pour Wisk. Il prend son vélo, passe quelques jours, et puis il revient à la maison. Alors tout le monde saute dessus. Alors, qu'est-ce qu'a dit le père hôtelier? Il pense que je ne suis pas appelé à être bénédictin. Ah, c'est déjà quelque chose. Pourquoi ça? Pourquoi donc? Parce que je suis attiré à faire de l'apostolat. Ah, effectivement, les bénédictins, en général, ils restent dans leur cloître pour chanter la louange du bon Dieu. Bon, c'était une indication, il ne serait pas bénédictin. Bon, mais ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'il serait alors? Ça ne suffisait pas encore. Il fallait une indication positive. Or, il y avait à Poperinghe, en Belgique, de l'autre côté de la frontière, une autre trappe, la trappe de West Vleteren, où se trouvait, comme familier du monastère, un oncle de son père, Alban Théry, l'oncle Alban. Et Mgr Lefebvre nous a raconté quelquefois, oui, j'allais le voir de temps en temps en vélo, j'allais lui rendre visite parce que c'est la vie des trappistes m'attirait beaucoup. J'aurais même voulu y entrer comme frère. Ah, seulement on venait de lui dire qu'il n'avait pas la vocation bénédictine. Alors, ça veut dire aussi qu'il ne pourrait pas être trappiste. Oui, se trouvaient, dit-il, ses frères tellement admirables, si proches du bon Dieu. Dans leur simplicité, dans leur candeur, ils reflétaient un bonheur céleste. Les simples frères, hein, qui n'étaient pas prêtres, les frères du monastère, plus bas, hein, c'était ceux qui reflétaient le plus le bon Dieu. Donc ils se sentaient, ils étaient bacheliers, hein, mais ils voulaient devenir frères, petits frères, simplement. Admirable. Alors, sans doute il ne fallait plus y penser. Mais dans cette abbaye de West Vleteren se trouvait aussi un moine réputé pour sa sainteté et son don de prophétie. Voilà. Vous arriviez devant lui, il vous disait quelque chose, et puis ça se réalisait. Il s'appelait le père Alphonse. Va donc voir à Poperinghe. Oui, en effet, dit Marcel, j'ai envie d'aller voir à Poperinghe, j'irai voir oncle Alban et je parlerai au père Alphonse. Il prit son vélo, traverse la frontière, arrive à la trappe, salua l'oncle Alban et demanda un parloir avec le père Alphonse. Or, dès son entrée dans le parloir, avant même que Marcel eût pu poser la moindre question, le père lui dit « Vous serez prêtre. Vous devez être prêtre. » Cette fois, il n'y avait plus à hésiter. Restait le choix du séminaire. Où aller? Il y avait son grand frère qui était parti à Rome faire des études très élevées en latin à l'université grégorienne pour avoir des diplômes. Marcel Lefebvre, lui, il nous disait plus tard, à Écône, « Moi, je ne me voyais pas du tout partir à Rome. Je n'étais pas un grand intellectuel. Hein, » L'humilité. « Je n'étais pas un grand intellectuel. » Bon. Et puis, il fallait faire des études en latin, puis aller là-bas, en Italie, et puis à l'université grégorienne, avec des examens difficiles aussi. Moi, j'aurais préféré me trouver comme les séminaristes de mon diocèse, au séminaire de Lille, et devenir un petit curé dans une paroisse de campagne. Voilà, son idéal. Être un nouveau curé d'Ars. Tout simplement, en toute simplicité. Un petit village. Hein. Maintenir la foi dans une paroisse. Moi, je me voyais comme un père spirituel de mon peuple, ma population, à laquelle on s'attache pour lui inculquer la foi, les mœurs chrétiennes. C'était mon idéal. Alors, à quoi bon aller à Rome? Voilà le problème. Hein? Voyez? Pas besoin d'aller à Rome pour ça. Securitas, c'est pas aller à Rome. Alors, comment va se jouer la volonté du bon Dieu? Voilà. Est-ce que c'est la volonté du bon Dieu ou puisque c'est sa volonté à lui, Marcel? Alors il dit à son père, parce que c'est son papa quand même qui va aider, hein. Mon père, papa, j'aimerais rester au diocèse, rester à Lille, moi. Puisque je veux travailler au diocèse, ce n'est pas la peine que j'aille à Rome. Son père répond, non, 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 non. C'était un homme qui commandait. Hein. Tu vas rejoindre ton frère. Ton frère est à Rome, tu vas à Rome aussi. Pas question. Tu ne vas pas rester au diocèse ici, et puis le diocèse. En effet, le diocèse tournait déjà au modernisme et au libéralisme. Et M. Lefebvre est un homme de principe. La volonté de Dieu, eh bien, pour les enfants, elle parle par les parents. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors c'est aux parents à expliquer ça aux enfants, même aux grands jeunes gens. Pour aider les grands jeunes gens à prendre une décision importante, eh bien, l'avis des parents est essentiel. Pour choisir un conjoint, un époux ou une épouse, l'avis des parents est essentiel. Le conseil des parents, de même pour s'engager dans la vie sacerdotale ou religieuse, il est bien d'avoir l'accord des parents, si c'est possible, évidemment. Et Marcel est docile. Bon, papa veut que j'aille à Rome, c'est terminé, je vais à Rome, pas de problème. Voyez, c'est Dieu qui parlait. Donc, M. Refaire insiste, non, tu es à Rome, Rome, ce sera mieux. Il avait raison. Si Mgr Lefebvre avait été son séminaire à Lille, nous n'aurions jamais ni Mgr Lefebvre, ni rien du tout. Parce que c'est à Rome qu'il a reçu ses principes. Voyez, il a fait la volonté du bon Dieu, a suivi la vie de ses parents, tout simplement, conseil de son père. Et voilà, disait-il plus tard, comment la providence a conduit mon existence. Il le reconnaissait plus tard, à cause de la guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre, il est évident que mon frère aîné ne serait pas allé à Versailles, mais qu'il serait entré directement chez les missionnaires, puisqu'il voulait être missionnaire. Mais à Versailles, il a connu M. l'abbé Colin. Et c'est l'abbé Colin qui orienta mon frère à Rome, en lui disant à M. Lefebvre, envoyez votre fils René, votre aîné, envoyez-le à Rome. Et c'est pareil, et ainsi Marcel a suivi son frère. Sinon, je serais moi-même entré au séminaire de Lille, parce que je ne me sentais pas à l'époque une vocation missionnaire, moi je voulais être petit curé, bon, je serais entré au séminaire de Lille, je n'aurais pas été à Rome, ça aurait complètement changé mon existence, complètement. Donc tu iras à Rome. La résolution de M. Lefebvre était arrêtée, Marcel ne discuta pas, à la maison, l'autorité du père était respectée, et même redoutée, parce que M. Lefebvre était un homme sévère. Ce qu'il ne faut pas trop être. Par l'autorité, pas une autorité trop dure. Bon, il était un peu redouté, M. Lefebvre. Mais en tout cas, c'était lui la tête à la maison. À la maison, c'était la tête pensante. Il avait été formé au principe. Et il était lucide sur le libéralisme qui infectait déjà les séminaires de France. Au contraire, il savait qu'au séminaire français, on luttait contre le modernisme, contre le libéralisme. C'est pour ça qu'il était content d'envoyer son fils. Et donc il demanda une audience à l'évêque du diocèse, Monseigneur Quillet, et qui envoya bien sûr Marcel à Rome en lui recommandant de devenir bien romain. Allez, suivez votre frère et devenez bien romain. Voilà, donc ça c'est le premier acte de la vocation de Mgr Lefebvre. Le deuxième acte se passe vers la fin de son séminaire, à la veille de devenir prêtre. Je vous retrouve ça. Donc, Il allait être sous-diacre. Nous étions à Pâques 1929. Monsieur René Lefebvre, son papa, accompagné de son épouse et de sa sœur, Marguerite, viennent faire un pèlerinage à Rome. Marcel organise tout, les visites dans les sanctuaires et même une audience du pape. Évidemment, une audience avec d'autres pèlerins. On n'est pas tout seul, mais comme un petit groupe, ce qu'on appelle une audience privée pour un petit groupe de pèlerins. Le pape entra dans la salle d'audience, s'assit sur son trône pour adresser quelques mots aux visiteurs qui se tenaient debout en demi-cercle. Puis le pape se leva et fit lentement le tour de la salle en félicitant certains pèlerins et en les bénissant. L'abbé Marcel, Lefebvre, qui était là, glissa alors un mot au maître des cérémonies. « Pourriez-vous signaler à sa sainteté que je lui serais très reconnaissant de bien vouloir bénir mes chers parents qui ont 5 enfants consacrés à Dieu. » Le Saint-Père dit « Bien sûr !» s'approcha donc de monsieur et madame Lefebvre qui baisèrent son anneau, s'agenouillant devant le pape, puis Marcel, qui bénit aussi, baise l'anneau du pape, connaissait Pion, Marcel, monseigneur Lefebvre. Et le pape alors de poser les deux mains sur la tête du jeune abbé, comme ça, en disant « Vous avez bien mérité de l'Église ». Évidemment, il s'adressait aux parents, qui avaient 5 enfants consacrés à Dieu. Mais c'est quand même curieux qu'il ait béni le fils, Marcel, en prononçant ces paroles. Il y a quelque chose, bon, je ne dis pas de prophétique, mais de singulier dans cette chose-là. Enfin, vous en penserez ce que vous voudrez. Voilà. En tout cas, donc, bien mérité de l'Église. Ses parents, mais lui, peut-être, on verrait. Et donc, il devient sous-diacre, il devient diacre, tout ça. Le sacerdoce approche, Et alors, finalement, il va être ordonné prêtre à Lille, dans son diocèse, par son évêque, le cardinal Liénard, en 1929. Bien. Et alors après, il doit retourner à Rome pour continuer ses études, parce que le cardinal dit, ben, écoutez, vous avez votre licence en théologie, eh bien continuez pour avoir votre doctorat. Et donc, il retourne un an à Rome comme prêtre. Séminariste prêtre, pour arracher son doctorat en théologie. C'était d'accord comme cela avec son évêque. Alors donc, il retourne à Rome pour faire sa dernière année de théologie. Mais d'abord, j'ai oublié de vous parler de la cérémonie d'ordination. L'ordination de Mgr Lefebvre le 21 septembre 1929, dans la chapelle des Dames du Sacré-Cœur, rue Royale, à Lille. Le cardinal ordonna 5 prêtres. Donc Marcel était parmi 5 prêtres. Et puis le lendemain, il y a eu la première messe dans l'église paroissiale de Tourcoing, paroisse de la famille Notre-Dame de Tourcoing, où il y avait, s'il vous plaît, 42 enfants de cœur pour servir la messe. 42, toute la famille, tous les cousins et neveux, et autres. Et 30 prêtres présents à la première messe. 30 prêtres. Qu'est-ce que c'était que ce Marcel Lefebvre? Avec 42 enfants de cœur et 30 prêtres assistants à sa première messe. Bon, c'était courant à l'époque, mais c'est quand même merveilleux. Et toute la liturgie de ce 18e dimanche, après la Pentecôte, magnifiait le sacerdoce et le sacrifice. Le chant de l'offertoire décrivait Moïse consacrant un autel au Seigneur et offrant sur lui des holocaustes et célébrant le sacrifice du soir comme un parfum de suavité pour le Seigneur Dieu en présence des fils d'Israël, etc. Toute la liturgie de ce dimanche ne faisait que parler du sacerdoce, c'est vraiment providentiel. Et pour la première fois, le Seigneur donc descendit entre les mains du jeune prêtre. Bien sûr, sa première messe. Et ensuite, il donne la Sainte Communion à ses chers parents. Et dans la cour, il donne la première bénédiction. Et sa maman écrit le soir même, rentrée à la maison. Elle raconte cela à son missionnaire du Gabon, René Lefebvre, l'ordination de son frère, comment ça s'est passé. Eh bien, pour ma part, disait-elle, l'alléluia de la fin de la messe, pendant la marche du cortège, m'a tout d'un coup ému, plus que je ne saurais dire. Je pensais à une entrée triomphale au paradis. Et je t'assure, écrivait-elle à René, que tout le reste disparaissait. Voilà comment elle a vécu la première messe de son fils, comme une entrée triomphale au paradis. Bien. Donc il retourne à Rome pour finir sa théologie. Qu'est-ce qui se passe dans cette dernière année romaine? Des choses intéressantes. Un jour, le cardinal Suard, il n'est pas encore cardinal, il était évêque de Lisieux, vint inaugurer la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus au séminaire à Rome. On reçoit Monseigneur Suard, évêque de Lisieux, et c'est Marcel Lefebvre qui eut l'honneur de réciter au nom de la communauté une prière qu'il avait composée pour la circonstance en l'honneur de la Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Malheureusement, hélas, nous n'avons pas retrouvé cette prière. Les archives du séminaire français ne la gardent pas. Nous ne savons pas. Ses camarades de séminaire le décrivent déjà comme une forte personnalité, avec des convictions très déterminées et bien ancrées. Surtout, il manifeste son amour de la saine doctrine. Voilà. Au demeurant, c'est un séminariste d'une gentillesse exquise, jouissant d'une incontestable aura, une influence, dévoué et serviable. Un ancien m'a dit, il était pour nous un modèle, toujours souriant, toujours affable, et le père directeur nous le présentait comme tel. Voilà Marcel Lefebvre dans cette dernière année de séminaire. Et donc il allait, à la fin de l'année, rentrer en France au service du diocèse. Voilà, bien. Et pourtant, mesdames, son âme était ailleurs. Depuis quelques années, il cherchait autre chose. À la rentrée de 1928, donc 2 ans avant, son incertitude était rené sur la direction de sa vocation. Je suis appelé par le bon Dieu à devenir prêtre, c'est entendu, mais où, quand, comment? Parlant à René, le fils aîné, ou parlant aussi à la tante sœur, parce qu'il y avait une tante sœur dans la famille, Madame Lefebvre écrivait: « Je vous demande des prières spéciales pour Marcel, ma chère tante, car il semble ne pas être définitivement orienté. » Qu'est-ce que le bon Dieu voulait pour lui? C'est étrange. Il était bien au séminaire, mais il ne savait pas qu'il y avait quelque chose pour plus tard. Il ne savait pas encore quoi. Peut-être que c'est l'exemple aussi de ses 4 frères et sœurs religieux. 4 frères et sœurs religieux. René, Christiane, Bernadette, Jeanne, qui était religieux, qui a fait les vœux, qui l'entraînait, qui le provoquait à désirer un don plus parfait de lui-même. D'autre part, au séminaire, le père directeur, le père Berthet, entreprenait une propagande missionnaire en invitant des missionnaires à parler des missions. Ainsi, le père Pédron vint en avril 29 parler de l'œuvre missionnaire en Afrique. Il passa tout en revue, les langues étranges qu'il fallait apprendre, les catéchistes, le petit nombre de missionnaires, la menace de l'islam. Et il conclut en parlant aux séminaristes: « Soyez missionnaires !» Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Une drôle de propagande au séminaire. « Soyez missionnaires !» Oui, soit par la prière, soit par l'aumône. Il ne voulait pas trop, évidemment, débaucher, si l'on pourrait dire. Le séminaire français, vous comprenez. Un autre jour, c'est Monseigneur Shanahan, le grand évêque du Nigeria, qui vient parler de ses succès missionnaires avec ses écoles du Nigeria. Et enfin, du Gabon, viennent incessamment des lettres du frère aîné. Mais que vas-tu faire dans le diocèse, à Lille? Rejoins-moi au Gabon. Nous croulons sous le travail. À Lille, tu n'as rien à faire. Le 23 mars 1930, Marcel Lefebvre, qui est toujours séminariste à Rome, prêtre, expose dans une conférence au séminaire cette vérité: hors de l'Église, pas de salut. Il était pénétré de ce problème. Le salut des païens. Comment ces pauvres infidèles, qui ne sont pas baptisés, peuvent-ils être sauvés? Il n'y a pas de mystère, il faut qu'ils soient baptisés. Donc il faut des missionnaires. Voilà le sens de sa conférence. On le voyait déjà pénétrer, ça le travaillait déjà, le salut des infidèles. Il ne disait pas comme aujourd'hui: oh, le bon Dieu a ses voies, ils seront bien sauvés dans leur religion, etc. Non, c'est la vraie théologie. Il faut qu'ils soient baptisés, il faut qu'ils embrassent la foi catholique. C'est pas en restant dans l'islam ou dans l'idolâtrie qu'ils pourront être sauvés, c'était évident. Voilà. Donc il expose cette grande question: hors de l'Église, pas de salut. Donc il faut des missionnaires. Cette grande question, qu'il nous dira plus tard en conférence spirituelle, c'est cette question-là qui explique sûrement en grande partie notre vocation. Il nous disait ça à nous, séminaristes. Mais ça veut dire que lui, c'était sa question, qui avait fait sa vocation finalement, la question du salut des âmes. Voilà. Il nous révélait, si vous voulez, l'origine de sa propre vocation missionnaire. Ceci, nous disait-il, justement, doit nous donner l'esprit missionnaire, rien qu'à se poser cette question: comment seront-ils sauvés? Et c'est pourquoi il n'attend pas d'avoir quitté Rome pour prendre sa grande décision. Après mûre réflexion et ardente prière, il écrit à son évêque directement, au cardinal Liénard. Et voici ce qu'en raconte M. René Lefebvre, le papa, à son fils René du Gabon, dans une lettre du 13 juillet. Je ne te peux pas laisser passer sous silence la décision de Marcel, s'entend causer. Le cher Marcel a quitté Rome, donc. J'ai vivement ressenti la peine qu'il en a eue. Il est triste de quitter Rome. Il nous avait averti de sa demande à Mgr Liénard d'entrer chez les Pères du Saint-Esprit, mais nous en restons très très surpris, car nous ne lui supposions pas la vocation de missionnaire. Mais si telle est la volonté du bon Dieu, nous en sommes très heureux. Deo gratias. Voilà la réaction d'un père chrétien. Il a déjà un fils au Gabon, un deuxième fils qui va quitter le pays. Ça ne fait rien. Voilà des parents chrétiens qui se disent disposés à quitter leurs enfants, volontiers. Deo gratias. De toute façon, continue-t-il, je ne le voyais pas très bien dans le clergé séculier. Je remercie le bon Dieu de cette grande grâce. C'est un événement important pour nous. Nous savons maintenant ce que sont les séparations. Mais nous devons savoir que tout ce que nous avons est entre les mains de Notre-Dame. Voilà une lettre d'un père de famille. Exemplaire. Maintenant, nous sommes entraînés aux séparations. Tout ce que nous avons, nos enfants, tout cela, c'est entre les mains de Notre-Dame. Parce que M. Lefebvre était très dévot de Notre-Dame de Lourdes. Il était brancardier à Lourdes. Et donc Marcel Lefebvre avait écrit à Mgr Liénard, l'évêque n'était pas homme à s'opposer aux vocations missionnaires, bien au contraire, il acceptait volontiers que de ses séminaristes ou de ses prêtres deviennent missionnaires. Pour ça, il n'y avait pas à lui reprocher de ce côté-là. Mais quand même, lorsqu'un séminariste demandait d'aller en mission, la coutume générale en France et au diocèse de Lille était de le retenir un an au service du diocèse. Ensuite, il irait où il voudrait. Il resterait un an au service du diocèse. Et c'est cette réponse que l'avait Marcel reçue de l'évêché. Il l'a compris d'autant mieux qu'il n'avait pas été le seul à demander cette année-là de partir en mission. C'est vous dire s'il y avait des vocations missionnaires à l'époque. Sa mère expliquait cela au père René du Gabon. Marcel est le même, toujours, calme, paisible. Il fait bon de le voir. Monseigneur le retient donc un an dans le diocèse, près de Lille, a-t-il dit. Et pas dans le ministère, peut-être dans un collège. Il était question de mettre l'abbé Marcel Lefebvre professeur dans un collège. Alors je pense qu'il a dit, oh Monseigneur, surtout pas, je ne suis pas du tout fait pour être professeur. Et finalement, on va le nommer dans une paroisse, n'est-ce pas? Voilà. Et la maman continue, son départ, la lettre à son fils René, son départ du diocèse, ainsi que celui de deux autres qui sont dans le même cas, mettrait Monseigneur dans un grand embarras. Marcel n'a pas insisté, en suivant le conseil qu'on lui a donné. L'évêque donc pensa un moment le mettre professeur dans un collège, et je pense que Marcel Lefebvre dut lui exposer le peu de goût qu'il avait pour l'enseignement. Monseigneur, je vous en prie, je n'ai aucun goût pour être professeur, pour être dans un séminaire, j'ai aucun goût pour cela. Ne croyez pas que parce que je suis docteur en philosophie et en théologie, que je suis fait pour aller dans un collège ou quoi que ce soit. Surtout, mettez-moi dans l'apostolat. Parce que moi, je voulais faire de l'apostolat, bon, vous vous souvenez, hein, c'est ça. Et alors, Monseigneur Liénard accepta. Et à la fin de l'été, il reçut sa nomination comme vicaire au Marais de l'Homme, une banlieue ouvrière de Lille, providentielle, pour le former à l'apostolat. Cette première année fut providentielle pour Marcel Lefebvre. Il aurait été dans un collège, il serait ennuyé comme les pierres, et puis il n'aurait pas eu l'expérience qu'il a eue cette première année d'apostolat. Donc, vicaire de banlieue ouvrière. Magnifique. Voilà. Et oui, on dit Marcel Lefebvre, la haute bourgeoisie du nord de la France, fils de patron, tout ça. Il a été vicaire des ouvriers. Voilà. Il a commencé son ordre sacerdoce. Alors qu'on ne dise pas des choses fausses. Et donc, c'est dans cette paroisse ouvrière qu'il ferait, comme on disait, son année de pénitence. On disait ça un peu irrespectueusement. Les prêtres qui voulaient partir en mission, ils devaient faire leur année de pénitence un an dans le diocèse. Reste à savoir si ce serait vraiment une année de pénitence. Et une autre fois, si Dieu veut, je vous raconterai que ce ne fut pas du tout une année de pénitence. Si bien que l'abbé Marcel Lefebvre prit goût à son apostolat dans sa paroisse ouvrière, et que, peu à peu, la vocation missionnaire diminuait. Ouh là là! Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour quand même le retenir et l'envoyer en mission? Mystère! Voilà. Mais quand même, le bon Dieu l'a envoyé en mission. Il est resté fidèle à cette vocation missionnaire. Je terminerai, si vous voulez, chère dame, en vous insistant sur ce point particulier, que cette vocation, bon, il la doit aux circonstances de la guerre, il la doit à un bon prêtre, c'est entendu, mais avant tout à l'exemple de ses parents. L'exemple vivant, ses parents, pas les grands discours, pas les grands conseils, une vie chrétienne vécue à la maison, esprit de sacrifice, la fidélité aux principes, le papa, homme de principe, la maman, femme renoncée, femme sacrifiée, et toute l'atmosphère favorable, le terrain favorable pour faire germer une belle vocation ou pour faire germer éventuellement de belles familles chrétiennes. Alors, essayons de suivre cet exemple dans nos foyers, les foyers de nos enfants, d'exhorter nos jeunes couples, nos jeunes pères et mères de famille à suivre cet exemple. Et ainsi le bon Dieu bénit les familles chrétiennes. Je vous remercie. Je vous laisse méditer quelques instants.